Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. La passion dans le travail pour les autres, la passion et croire en son parcours lorsque presque personne n'y croit, c'est vraiment l'incarnation de cette interview. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Oumaïma Mhijer, bonjour.
Bonjour chère Yasmine, merci de m'accueillir.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Alors Oumaïma, justement, c'est ce qu'on appelle cette jeunesse marocaine pleine d'initiatives et pleine de patriotisme, et celle qui met la main à la terre et la main à la pâte et qui descend dans l'arène pour faire bouger les choses. Alors, entrepreneur social, CEO de la fondation Jadara et tant d'autres choses, on va en parler justement. Aujourd'hui, Oumaïma, ça veut dire quoi être entrepreneur social ?
Écoute, nous en parlions juste hier lors d'un panel autour de l'entrepreneuriat social avec les pionniers et les pionnières de l'entrepreneuriat social au Maroc et en Afrique. Être entrepreneur social, c'est être une personne qui est ancrée dans une communauté, qui cherche à résoudre une problématique en maximisant les réflexes, les codes et le business model d'une entreprise à but lucratif. Toutefois, les efforts sont orientés vers la résolution d'une problématique qui peut avoir une nature problématique économique, environnementale, sociale, sociétale, culturelle, etc.
Ok. Parce qu'en fait, les deux mots ensemble, mis côte à côte, ils sont antinomiques en quelque sorte. Entrepreneuriat et social. Et donc, est-ce qu'on peut... Je vais poser la question de façon très crue. Est-ce qu'on peut faire de l'entrepreneuriat social et gagner sa vie, en fait, et se faire de l'argent ?
Tout à fait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans mon cas, je suis entrepreneur et entrepreneur social.
Okay.
J'ai plusieurs casquettes. Je suis à la tête d'un cabinet de consulting. Je suis également fondatrice d'un cluster qui encourage les femmes artisanes. Je suis également à la tête de la Fondation Jadara, qui est un full-time job, en plus de mes autres casquettes de bénévole, de volontaire, où j'interviens, entre autres, dans le cadre du Think and Do Tank, le Maroc social. Nous pouvons absolument être entrepreneureux, avec E à la fin, social, car l'entrepreneur, l'entrepreneuse, a pour vocation de résoudre des problématiques. La résolution de problématiques, quand elle est concédée exclusivement à des volontaires, à des bénévoles, exclusivement, il y a une sorte de durabilité et de consistance qu'on va perdre. En effet, le bénévole ou le volontaire qui donne de son temps, qui va être dans l'action sociale, qui va être dans
le bénévolat, en fait,
civique et citoyenne,
ouais,
malheureusement, donnera de son temps quand il pourra, quand elle pourra, et c'est tout à fait louable, et elle est félicitée pour cet effort.
Ouais.
Toutefois, afin de construire des systèmes qui marchent c'est-à-dire à long terme, avec une architecture intelligente et qui relève de l'innovation, il faut des structures qui sont pérennes, et pour ce faire, tu ne peux pas passer sans maximiser cet effort à travers des ressources humaines, à travers des mécanismes, à travers des études, à travers des systèmes informatiques. Aujourd'hui, les entreprises sociales au Maroc, crois-moi, tu serais absolument étonné de la robustesse et de son architecture humaine et systémique, mais également de la robustesse de son système financier,
okay,
de sa pérennité financière.
Et en fait, je pense que c'est cette double casquette aussi qui fait qu'il y a cette robustesse dont tu parles, parce qu'il y a de l'argent, oui, mais il y a aussi beaucoup de valeurs humaines.
Tout à fait. L'entreprise sociale, tu sais, et l'entrepreneur social va non seulement résoudre une problématique, mais elle va mener tous ses efforts envers l'intérêt général.
Oui.
D'ailleurs, la définition de l'entreprise sociale, c'est une organisation qui va résoudre une problématique sociale, économique, environnementale, etc., humaine, en utilisant un business model économique, mais c'est-à-dire les intérêts, les excédents financiers qui sont générés sont injectés dans la solution ou la résolution de la problématique. Il n'y a pas forcément d'action. En tout cas, au Maroc, il n'y a pas du tout d'actionnariat dans les entreprises sociales, étant donné que l'entreprise sociale et l'entrepreneuriat social au Maroc n'est pas encore réglementé. Mais effectivement, si par définition les porteurs slash les entrepreneurs sociaux qui sont derrière cette entreprise sociale vont mener des actions qui ne sont pas contribuent pas à cet intérêt général, eh ben la force de la définition de l'entreprise sociale, eh bien, elle n'est plus.
Alors, Lala Oumaima, justement, toi, tu as une longue carrière dans le social, en fait. C'est bien ça. Tu as commencé avec le centre de formation ML. Après, tu as rejoint la Fondation Zagora. Tu as travaillé aussi pour la GIZ en tant que consultant. Enfin, tout autour, justement, de ce que l'individu peut apporter au sociétal. Mais moi, j'ai envie de savoir comment toute l'histoire a commencé.
Oui, je te remercie de me poser cette question parce qu'effectivement, elle me fait remonter à 2014-2015. Ça fait bientôt de 12 ans, inchallah, où j'étais élève ingénieur en cinquième année. Je suis ingénieur d'État en réseau et télécom de l'École nationale des sciences appliquées. Et le concours de circonstances, je remercie l'univers, je remercie Dieu d'avoir organisé les choses de cette manière, parce que cette année en particulier, les soutenances étaient remises au lieu d'organiser les soutenances de mon projet de fin d'études qui était centré sur la cybersécurité et la cybercriminalité avant les vacances universitaires, les vacances scolaires, c'est-à-dire avant août, juin et juillet, eh ben, il a été positionné en septembre ou peut-être même octobre, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de temps. Et le concours de circonstances, c'est que ma meilleure amie qui s'appelle Jihad et qui aujourd'hui travaille pour General Electric aux États-Unis, qui est également une militante qui a fait objet de l'ascension sociale, elle faisait du volontariat dans cette entreprise sociale qui est Amel. Elle enseignait les femmes qui sont en situation d'analphabétisation, ben justement, à lire et à écrire, etc. Et on a demandé à Jihad de s'occuper de la communication, étant donné que la communications manager, qui est une chino-américaine, devait rentrer aux États-Unis pour faire son PhD. Et on a demandé à Jihad de prendre le lead sur la communication de ML Women's Training Center. Elle s'est excusée, mais elle a dit, toutefois, j'ai une amie
oui.
qui s'appelle Oumaima, qui aime communiquer, qui aime être avec les gens. Elle n'a pas étudié la communication, mais vous verrez, si vous lui donnez sa chance, vous serez satisfait. Donc, je suis tombée dans le domaine de l'entrepreneuriat social uniquement pour combler ce gap de 3-4 mois. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas commencer à travailler, étant donné mes conditions économiques moi-même et le background d'où je viens. Du coup, je me suis proposée, j'ai rejoint l'association ML en tant que communications manager. J'ai occupé ce poste pendant une année. Une année plus tard, je suis promue au poste de directrice. Et c'est de là où a commencé toute cette histoire.
Wow.
Effectivement, je suis très chanceuse d'avoir atterri par erreur, si tu veux,
ouais.
Dans ce domaine, parce que je suis tombée amoureuse de la cause, je suis tombée amoureuse de l'effort, je suis tombée amoureuse de la fatigue qu'entraînait le fait de servir les autres et de servir les femmes à travers un social business model qui était ultra intelligent et qui est aujourd'hui, qui a fait preuve de son innovation et de sa pérennité. Et depuis ce jour-là, j'ai appris et j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Mais toutefois, devant gérer des ressources humaines, il fallait un minimum de background scientifique. Donc, je me suis mise dans un MBA pour la gestion des ressources humaines afin d'apprendre à accompagner mes équipes. Et chemin faisant, j'ai fait une partie de mes études à l'université de Bâle en Suisse pour étudier l'entrepreneuriat social international dans le centre des études philanthropiques, car il fallait que je ne pouvais pas me permettre d'être entrepreneur social sans avoir un background scientifique à minima,
oui.
académique à minima,
oui.
et qui matchait entre executive learning c'est-à-dire tout ce qui est empirique, tout ce qu'on teste dans le terrain, avec tout ce qui est théorique. Et je suis heureuse d'avoir entrepris ce chemin au départ par erreur, ou juste le temps que. Et puis,
ça a duré autant.
Je me suis retrouvée
autant,
aujourd'hui à diriger des organisations de la société civile.
Alors, deux questions. La première, tu t'es rentrée pour 3 mois, combler un vide, tu es restée 1 an. J'aimerais bien savoir aussi ce qu'en pensait ta famille, parce que j'imagine qu'à ce moment-là, avoir une fille ingénieure fraîchement voilà, qui va finir ses études, qui va travailler, c'est une fierté pour la famille. Et puis, d'une, on met ça dans le contexte de l'association. Donc, comment ma fille est ingénieure, c'est bien d'aider les gens, mais c'est pas ce que je veux pour elle.
Effectivement, oui. Et surtout que les associations, à ce moment-là, c'était vraiment... Moi, je suis désormais... je m'autoproclame ambassadrice du Civil Society Effort. Mais malheureusement, à ce moment-là, l'associatif, c'était réducteur. C'était un petit quelque chose, une petite organisation qui rassemblait des personnes qui voulaient bien faire du volontariat, ramasser, voilà... assembler des donations et les distribuer dans le mode de la bienfaisance.
Oui.
Ça n'a rien à voir. Et merci de me poser cette question, parce qu'effectivement, heureusement que j'avais trouvé refuge dans le soutien de mon père, Sylmaté, que je remercie, parce qu'effectivement, c'était une décision folle et complètement décalée que de laisser tomber sa carrière d'ingénieur, sachant, et je vais pouvoir le dire sans honte, au contraire, ce n'est pas un tabou pour moi, c'est une fierté aujourd'hui, sachant qu'à ce moment-là, il fallait que je choisisse entre intégrer le marché de l'emploi, de l'IT, des réseaux et de la cybersécurité avec un salaire de démarrage d'une ingénieure junior de 8 000, 9 000 dirhams,
oui,
versus rejoindre l'association dans ce poste à full-time de communications manager avec un salaire de 3 000 dirhams.
Oui.
Et j'ai accepté de goûter à ça. J'ai accepté de prendre cette décision qui est décalée. Et je dois malheureusement avouer que ni la société n'a compris ce choix, ni ma grande famille élargie n'a compris ce choix. D'ailleurs, j'ai été pointée du doigt. J'ai entendu « Wassafi, tu as été ingénieur toute ta vie, tu as souffert toute ta vie pour finir... parce que le restaurant solidaire, pendant le service entre midi, le restaurant d'application, qui est un restaurant où les femmes,
oui,
en situation de vulnérabilité qui sont accompagnées par cette entreprise sociale s'appliquaient leur savoir-faire dans la cuisine marocaine, internationale, le service, les salades, la pâtisserie, etc. Donc c'était un laboratoire d'apprentissage pour ces femmes. Et donc, entre midi et 15h, je les accompagnais de manière volontaire dans le service. Et donc j'ai été... pointé du doigt. J'ai entendu dire tu as travaillé toute ta vie pour devenir ingénieur, pour être la fierté entre guillemets. Et là, on va peut-être basculer vers le sujet de c'est quoi un modèle, c'est quoi la réussite,
oui,
comment,
oui,
définir la réussite,
oh,
etc.
Tu tombes dans le mille.
Serveuse. Et pour finir serveuse dans une petite association.
Oui.
Comme ça.
Alors Oumaïma, quand tu entendais tout ça. Parce qu'Aoutani, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'était quoi, il y a 12 ans, c'est ça ?
Il y a 12 ans.
Il y a 12 ans. C'est vrai qu'on avance avec l'âge, avec les années, on gagne en maturité, on gagne en confiance en soi, même si parfois il y a des événements dans la vie qui vont venir un petit peu chambouler ou faire vibrer cette confiance en soi. Mais revenons, il y a 12 ans, quand tu entendais ça, qu'est-ce que ça te faisait ? Est-ce qu'au fond, tu avais une peur ?
Je dois t'avouer, Yasmine, que la Oumaïma d'il y a 12 ans n'a rien à voir avec la Oumaïma d'aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire que ça me touchait. C'est quelque chose qui... it was shaking me. C'est-à-dire,
oui,
que ça ne me laissait pas du tout indifférente. Je me souviens, prendre les choses un peu personnellement. J'ai même pleuré une fois parce que j'ai été blessée par les propos d'un prochain mois. Mais écoute, je ne sais pas, ça a toujours été en moi le fait de ne pas forcément aller dans le sens du courant de tout le monde.
Ah.
J'arrive à repérer 2-3 schémas depuis mon enfance qui font que je suis quelqu'un, effectivement, je suis conformiste, les tests psychologiques disent que je suis relativement conformiste, mais j'ai réussi à prendre quelques décisions courageuses, à contresens, dans mon parcours, et qui font qu'aujourd'hui, je suis heureuse de les avoir prises, car elles m'ont permis de sortir du lot, sortir du cadre, et être la personne que je suis aujourd'hui. Je ne suis pas du tout, je n'ai jamais regretté, et je pense que je ne regretterai jamais d'avoir décidé de prendre cette décision qui n'est pas du tout la décision du lot, la décision de la société, la décision du groupe.
Ok. Alors, tu as dit tout à l'heure, tu as dit une chose entre les lignes, tu as dit j'ai choisi de rentrer dans tout ce qui est à l'époque, je pense que tu ne savais pas encore que le mot d'entrepreneuriat social existe, il y a 12 ans quand
pas
tu as...
Pas du tout.
Voilà.
Pas du tout.
Et tu as dit une chose, tu as dit en fait, malgré ma situation, malgré le contexte dans lequel j'étais.
Oui.
Est-ce que je dois comprendre par là? Est-ce qu'on comprend par là que c'est un contexte financier qui n'est pas solide?
Tout à fait, tout à fait. Moi, je n'ai absolument pas honte de parler de cela. Pendant mes études, j'ai dû travailler pour me soutenir financièrement. Mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont accompagnée au meilleur de ce qu'ils pouvaient. Je ne les remercierai jamais assez. Les ambitions d'une petite élève ingénieure de 19, 20, 21, 22 ans, on peut dire que voilà, les parents ne peuvent pas plus tout provide. Et donc moi, je fais partie de ceux qui ont déjà pratiqué, c'est-à-dire la négoce, le commerce. Je me souviens avoir été fracha à Marrakech, vendre les vêtements, le prêt-à-porter en gros et ensuite chez les grossistes. Ensuite, j'ai fait du porte-à-porte dans les cités universitaires et puis j'ai vendu dans la rue. Ça m'a forgé. Ça fait partie des parcours, je pense, dont je suis le plus fière aujourd'hui parce que ça m'a permis de confronter le monde. Effectivement, pour répondre à ta question, la situation économique et financière ne me permettait absolument pas de prendre ce choix.
Ouais.
C'est-à-dire que ce choix-là, ce n'était pas un choix de raison à 100%. Si je devais mesurer les pour et les contre et prendre une décision raisonnée, je n'aurais jamais dû accepter de travailler pendant 6 mois à 3 000 dirhams et puis pendant 1 an à 6 000 dirhams, c'était pas soutenable. Alors que j'aurais pu, 1 an plus tôt, percer le marché avec un salaire de démarrage d'un ingénieur, tu vois. Et j'ai même décidé de ne pas poursuivre mon PhD parce que j'avais la possibilité de le faire. Mais c'est des décisions qui sont relativement décalées, mais qui prennent tout leur sens aujourd'hui pour moi.
Alors, en même temps, tu as eu l'opportunité d'aller faire des études à l'étranger. Ça, comment tu l'as financé?
Écoute, c'est des bourses. Des bourses sur des bourses sur des bourses qui viennent. À mon avis, c'est le mérite. Vraiment. J'ai été contactée un jour. Je n'ai rien candidaté, je n'ai rien fait. J'ai été contactée par l'ambassade des États-Unis au Maroc pour me dire « tu as été repérée ». D'ailleurs, c'est un programme auquel personne ne peut candidater. Tu es juste recommandée par quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui m'a vu intervenir, peut-être être intègre, peut-être communiquer, je ne sais pas, de manière authentique. Je ne sais pas ce que cette personne a vu en moi. Mais cette personne qui m'a proposé pour ce programme, j'ai reçu un appel me disant « tu as un parcours de formation qui est financé sur 5 semaines aux États-Unis et c'est financé par le ministère des Affaires étrangères américain ». Je n'aurais jamais pu rêver de ça, de ma vie, de ma life. C'était le jackpot dans ma tête, alhamdoulilah. Pour les études à l'université de Bâle, j'ai candidaté à une scholarship. J'ai été recommandée effectivement par un bailleur de fonds qui finançait l'association qui est un bailleur de fonds suisse, qui a vu le sérieux, qui a vu l'intégrité, qui a vu l'humain en moi, je pense. Je ne sais pas.
Oui.
qui m'a recommandé à ce programme de bourse auquel il fallait bien évidemment que je candidate pour partir à Harvard, mais jamais de ma vie. Même aujourd'hui, je ne peux me permettre de financer un parcours à Harvard. Je ne peux pas financièrement, ouais. Je ne m'en sortirai jamais. Mais effectivement, j'ai été, encore une fois, le concours de circonstances, un week-end où je normalement devais me reposer. J'ai rejoint un séminaire, j'ai candidaté à un séminaire de Tariq Ibn Ziyad Initiative qui a été animé par Si Mohamed Alami Barada, qui est aujourd'hui mon mentor, et par Asma El Hajji, que je pense tu dois connaître. Et tous les deux ont animé un séminaire sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche, pendant que j'aurais dû normalement me reposer. J'ai décidé de rejoindre ce séminaire. On m'a repéré pendant ce séminaire. Je me suis apparemment, je te parle a posteriori, ayant été dans ce séminaire.
C'est ça ce qu'on appelle en fait « say ».
Ça y est, effectivement, c'est, faire l'effort.
C'est, voilà, c'est faire quelque chose.
Et il n'y a pas de zahar, il n'y a pas de chance.
Ouais.
L'opportunité rencontrera your readiness.
Oui.
C'est-à-dire
ton habilité, oui.
Voilà, ta préparation va rencontrer une opportunité et tu dois être prêt. Tu dois être aiguisé, tu dois avoir la capacité de parler différentes langues. Parce que des fois, pour intégrer un programme, il te faut une éligibilité de langue. Tu dois être prêt, tu dois avoir un passeport qui est prêt. Tu dois avoir, tu vois,
ce genre
de réflexe. J'invite mes consoeurs et confrères, auditeurs et auditrices de ton émission à être prêt. Tu dois être prêt. Tu peux pas te permettre des petites erreurs de débutant. Tu aurais pu, va apprendre l'anglais, va apprendre l'espagnol, va apprendre, je sais pas moi, l'italien. Ça pourrait t'ouvrir des portes un jour. Tu vois ce que je veux dire?
Absolument.
Et donc, revenons au sujet. Je suis un peu perdue, navrée.
C'est comment tu as fait pour les études, mais tu as expliqué.
Effectivement,
voilà.
Effectivement. Et puis, j'ai été, j'ai candidaté à un programme d'espoir du Maroc. Pour être éligible à ce programme, il fallait avoir participé à ce séminaire, tu vois.
Incroyable.
2 ans plus tard.
Incroyable.
Donc, j'ai été sélectionnée, je pense, parmi 600 candidats. On a été 10. Et parmi ces 10, il avait fallu que nous candidations à un des programmes de la Harvard Kennedy School. Et si nous avions été sélectionnés par Harvard, eh ben, nous allions être audités par une commission qui allait décider à qui on va octroyer cette bourse. Et donc, il fallait encore une fois passer tout le concours, tout l'interview, tout le process de validation par Harvard. Et ensuite, j'étais avec 2 consoeurs, donc nous étions 3, à passer devant la commission qui a finalement choisi de m'aider. Tu vois ?
Ouais.
Donc, effectivement, c'est... Et pour moi, ce qui revient, c'est l'effort et le mérite. L'effort
et le mérite. Oumaima Mhejer, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, chère Yasmine.
Merci beaucoup, Oumaima. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.